Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Alors qu'il vient tout juste d'avoir 18 ans, l'iPhone s'encanaille avec sa première application pornographique. C'est la boutique alternative Alt Store qui lui a fait ce drôle de cadeau et ça ne plaît pas du tout à Apple. Cette application est-elle un véritable scandale comme s'en émeut Apple ? On va en discuter avec Christophe. Dans le reste de l'actualité, Apple a lancé une nouvelle application iPhone plutôt inattendue. Un projet de lunettes connectées aurait été abandonné à Cupertino et les forfaits mobiles avec plein de data sont remis en question par une agence gouvernementale. Nous sommes le samedi 8 février, voici des actus qu'il ne fallait pas manquer. Ce sont deux nouvelles applications exclusives à l'iPhone qui sont au centre de l'actualité cette semaine. Salut Christophe, est-ce que tu vas bien ?
Salut Stéphane. Oui, ça va pas mal. L'actualité, je suis assez surpris. Il y a toujours un petit creux, on va dire, fin janvier. Eh ben, on s'ennuie pas du tout. Donc, tout va bien. Et toi ?
C'est vrai que c'est reparti. Ouais, écoute, ça va bien, ouais. Il y a eu pas mal d'actu cette semaine. Et donc, je disais, c'est deux apps qui ont été au cœur de l'actu. Est-ce que tu les as installées toutes les deux ?
Je n'ai installé qu'Apple Invitation et je l'ai regardé, on va dire. L'application est arrivée un mois trop tard. Il y a un mois, j'aurais pu m'en servir, mais peut-être qu'on aura l'occasion de s'en servir pour les 25 ans de Mac Génération.
Ah, ce serait une bonne idée, ouais. Écoute, on va parler tout de suite de la première application qui a fait beaucoup parler d'elle. C'est Hot Tub. Alors, il s'agit tout simplement de la première application native pour iPhone qui est dédiée au porno. Alors vous ne la trouverez pas sur l'App Store, hein. Elle est distribuée par Alt Store, une boutique alternative qui a pu ouvrir dans l'Union Européenne grâce au DMA. Alors eh ben, écoutez, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai testé cette application. Alors Hot Tub permet de consulter les vidéos de plusieurs plateformes pour adultes de manière un peu plus confortable qu'avec les sites d'origine. L'app est bien évidemment interdite aux mineurs, hein, mais il n'y a pas de véritable contrôle de l'âge lors de l'installation. Il va sans dire que cette application ne plaît pas du tout à Apple. La pomme a rapidement publié un communiqué pour dire qu'elle désapprouvait totalement Hot Tub et que c'était la faute à la Commission européenne si elle avait pu sortir sur iPhone. Est-ce qu'on est face à un véritable scandale, Christophe ? Parce que Steve Jobs disait que Apple avait une responsabilité morale consistant à exclure le porno de l'iPhone.
J'en sais rien. Non, mais il y a quelques temps, je faisais un peu de mauvais esprit et je disais qu'en termes de diversité d'apps, les changements imposés par l'Union européenne allaient nous apporter deux nouvelles catégories, les apps porno et les antivirus. Donc, il ne manque plus que les antivirus et la boucle. Non, mais après, il faut aussi être honnête, il y a une petite hypocrisie sur l'App Store. On trouve pas mal de navigateurs qui parlent beaucoup de sécurité et de vie privée et qui donnent quand même l'impression d'avoir été pensés pour un autre usage. Bon, tu le disais, il y a quelques temps sous le ton de la plaisanterie sur les réseaux sociaux, mais ce serait d'ailleurs peut-être pas mal d'inverser le paradigme autour du porno, c'est-à-dire de trouver des apps pour la pornographie sur l'App Store et qu'elles soient beaucoup moins accessibles sur le web. Ça permettrait éventuellement un meilleur contrôle, notamment pour régler la question des mineurs. Après, bon, enfin, j'ai l'impression que c'est surtout un gros coup de pub pour l'Alt Store qui cherche de temps à autre à faire parler de lui. J'attends vraiment de voir le jour où on aura un groupe spécialisé dans cette industrie qui lance son propre App Store. Là, ça sera un séisme. En plus, je pense qu'il y a, de ce point de vue-là, il y a quand même de quoi faire. On a fait un sondage cette semaine où on a demandé aux lecteurs si c'était une bonne chose. Il y a 17% qui répondent oui, 40% qui répondent non et 34% qui sont sans avis. Bah, je suis plutôt sans avis également.
C'est vrai que Alt Store a fait vraiment un gros coup, on va dire, en présentant aussi cette application comme une application entre guillemets approuvée par Apple. En fait, ils jouent sur les mots parce que effectivement, elle a été approuvée au niveau de la notarisation parce qu'Apple a vérifié techniquement le bon fonctionnement de l'application. Mais approuvée, c'est pas approuvé dans le sens où Apple recommande l'application et du coup, ça a fait bondir Apple. Apple qui a dit non, mais on l'a pas approuvé. Et puis elle sort qui dit mais si, en fait, vous l'avez approuvé. Donc
ils sont pas mauvais en marketing avec ouais. Ça. Il est 18 ans.
Oui, oui. Alors la deuxième application marquante de la semaine, elle est beaucoup moins coquine. Enfin, quoique, on peut peut-être s'en servir aussi pour organiser des parties fines, mais bon, je vous laisse faire ce que vous voulez avec. Apple donc a lancé Invitation, une app qui permet d'inviter des personnes à un événement physique. Alors l'application est simple et jolie, on commence par entrer le titre de l'événement, la date, l'heure, le lieu, etc. Si on dispose d'Apple Intelligence, on peut générer un visuel qui correspond au thème du rendez-vous. Et puis ensuite, on partage le carton à ses amis par message. Et les invités peuvent répondre, même s'ils n'ont pas d'appareil Apple, puisque l'invitation est disponible sur le web. Ma question, c'est pourquoi ? C'est sympa, mais pourquoi Apple lance-t-elle une petite app comme celle-ci ?
Alors, il y a une tendance de fond dans la Silicon Valley. Avec la Covid, les gens ont eu tendance à s'éloigner, à tout faire en virtuel. D'ailleurs, quelque part, le Vision Pro s'inscrit un peu dans cette démarche. Hein, c'est un peu l'objet ultime pour nous faire oublier le monde réel. Et donc, voilà, ces gens de la Silicon Valley se sont dit « Mais en fait, c'est bien de se rencontrer en vrai. » Et donc, ils sont nombreux à travailler sur des applications, des services pour faciliter les rencontres entre proches et amis. Parce que, bon, envoyer un SMS ou se passer un coup de fil, c'est quand même un peu ringard. Alors, on sait que le cofondateur de Tinder travaille depuis des mois sur une solution permettant que des groupes puissent se rencontrer d'une manière plus fluide. On a déjà présenté une app ou deux dans ce genre sur IGN. Bref, c'est dans ce contexte qu'Apple arrive avec Apple Invitation. D'ailleurs, mais c'est une catastrophe, mais quel nom, mais c'est juste pas possible. Le nom de code, c'était Confetti, c'était tellement plus sympa.
Ouais, c'est sympa, ouais.
Mais voilà, il faut faire des noms comme ça. Enfin, vraiment, le marketing d'Apple est assez lourd, on va dire. Alors, il y a quand même deux, trois choses à noter. Donc, le business model, il faut être abonné à iCloud Plus pour l'utiliser. Alors, c'est nouveau sans l'être. Il y a quand même beaucoup d'applications qui te poussent assez vite à prendre un abonnement à iCloud Plus. Hein. La question que je me pose autour de cette app, c'est malgré tout un peu de souci, c'est que quel va être son potentiel dans des environnements hétérogènes. Je trouve que c'est un peu bloquant, même si, comme tu le dis, il y a des interfaces web et tout. Mais voilà, est-ce que ça, les gens vont pas dire, oh, je vais utiliser autre chose parce que c'est Apple Invitation. Il y a Apple dans le nom. Enfin, j'en sais rien. L'autre intérêt, c'est que c'est la première application d'Apple pensée à la base pour Apple Intelligence. La techno d'Apple permet de générer une image sur mesure et même un texte d'invitation lorsqu'on est en manque d'inspiration. C'est quand même dans ces domaines que l'IA générative peut être bien pratique. Bref, conceptuellement, c'est intéressant. Est-ce que cela marchera ? J'en sais rien. Est-ce que ça va être le nouveau clip ou bref, ça, c'est trop tôt pour le savoir.
On va passer à un autre sujet. On a fêté cette semaine le premier anniversaire du Vision Pro. On ne va pas revenir sur sa première année de disponibilité. Si ça vous intéresse, Félix a enregistré un épisode très intéressant de Kernel Panic avec trois acheteurs du Vision Pro qui partagent leur avis sur le fameux casque. C'est un podcast disponible pour les abonnés au Club IGN. Mais donc, le Vision Pro a un an, comme je le disais. Alors qu'il a fêté son premier anniversaire, Apple aurait abandonné un projet qui s'inscrivait dans le domaine de la réalité augmentée. D'après Mark Gurman, en fait, Apple avait commencé à développer des lunettes connectées. Ces lunettes, qui avaient des capacités de réalité augmentée, devaient fonctionner en étant jumelées à un Mac. Il ne s'agissait donc pas de lunettes autonomes dont on aurait pu utiliser les fonctions avancées n'importe quand. Et d'après le journaliste de Bloomberg, Apple a finalement abandonné le projet parce que les prototypes ne fonctionnaient pas bien et parce que les fonctionnalités envisagées changeaient fréquemment. Est-ce qu'il faut dire définitivement adieu à des lunettes Apple ?
Alors, autant la décision d'Apple d'arrêter les frais dans le domaine des voitures autonomes, on pouvait la comprendre, autant celle-ci. Moi, ce qui me perturbe, c'est à quel point cela change le narratif relatif au Vision Pro. Il y avait une petite musique qui disait « Ok, bon, c'est vrai, le casque, c'est pas top, c'est limitant. » Mais l'objectif final d'Apple, c'est de faire des lunettes. Et là, vous verrez à quel point cela sera un game changer. Sans jeu de mots, ça donne vraiment l'impression qu'Apple navigue à vue avec ses projets dans l'informatique spatiale. Quelle est la feuille de route d'Apple maintenant ? A priori, poursuivre le développement du Vision Pro et éliminer ses aspects bloquants, que sont le poids, le prix, l'autonomie, l'absence d'intelligence artificielle. Mais c'est plus que jamais un pari acquis tout double pour Apple. Sur X, on a vu le témoignage d'une personne qui achetait un Vision Pro cette semaine et qui avait la version 1.1 de Vision OS installée. Cette version remonte, elle est sortie en mars 2024. Les usines doivent vraiment tourner à plein régime ou pas. Ça rappelle un petit peu d'ailleurs, on avait le même genre de surprise avec notamment la première génération de HomePod. Voilà. Pour en revenir au Vision Pro, imaginons qu'Apple sorte une V2 moins chère. et que cela ne prenne pas plus que cela. Elle risque rapidement de devoir se poser les bonnes questions. Pour en revenir aux lunettes, cette décision elle est d'autant plus étonnante que socialement parlant, bah, c'est quand même plus facile de dire aux gens « porte ça qu'un casque ». Bref, la chose qui me fait peur, moi, dans cette histoire, c'est qu'Apple donne l'impression de vouloir, dès le début, mettre au point l'objet parfait. Avant l'iPhone, Apple a créé l'iPod, un objet qui était beaucoup plus limité, mais ingénieux et pratique. Et ça, j'ai l'impression que l'Apple de 2025 en est tout simplement incapable. Et on le voit à l'inverse avec Meta et certains autres concurrents, ils ont beaucoup d'ambition, ils veulent aller très loin, mais ils y vont petit à petit, ils commercialisent des lunettes avec des fonctionnalités très limitées. Mais bah, commercialement parlant, bah, autant des fois je me moque des casques, autant les lunettes semblent plutôt se vendre. Mmh. Meta disait qu'ils en avaient écoulé 1 million l'année dernière. Bref, pour répondre à ta question, je serais quand même étonné qu'Apple ne regarde pas à nouveau ce dossier dans quelques années. Elle a quand même énormément investi dans la réalité augmentée et il faut quand même bien que ces investissements servent à quelque chose.
Oui, c'est ça. Gurman dit que alors, ce projet de lunettes jumelées au Mac donc, serait abandonné, mais Apple continuerait quand même à regarder toujours ce domaine. On va terminer le tour de l'actu avec une idée de l'ADEME qui fait débat. L'ADEME, c'est l'agence gouvernementale qui a pour mission de favoriser la transition écologique. Alors selon l'agence, le numérique représente 4,4% de l'empreinte carbone de la France. C'est la fabrication des appareils qui représente la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre, mais l'impact des data centers est en forte hausse. L'ADEME recommande donc de maîtriser la croissance des usages. Et une piste pour cela, ça serait de réguler les forfaits mobiles. Car il faut savoir que les téléchargements en 4G ou en 5G ont beaucoup plus d'impact sur l'environnement que le Wi-Fi. Et la piste de l'ADEME, ça serait une tarification progressive des forfaits. En clair, plus vous avez de data sur votre forfait, plus vous payez cher. Alors vous allez me dire que c'est déjà le cas actuellement, mais les forfaits sont très généreux. On a par exemple, j'ai regardé avant l'émission, 150 gigas pour 10 euros chez SFR Red en ce moment. Sachant que la consommation moyenne en France est de 17 gigas, est-ce que cette idée de tarification progressive de l'ADEME peut marcher ?
Elle est là pour sensibiliser par rapport aux enjeux de l'écologie ou pour faire la morale ? On a vraiment eu l'impression que l'ADEME a lancé un ballon d'essai pour voir ce que ça allait donner. D'ailleurs, c'est pas qu'ils se sont rétractés, mais ils ont un petit peu... en début de semaine, ils ont dit « oui, non, mais non, c'est pas ça ». Enfin bref. Les chiffres montrent surtout qu'il n'y a pas de problème, en vérité. Comme tu le disais, les Français consomment en moyenne 17 gigas, alors que nombre d'entre eux pourraient consommer 4 fois, 5 fois ou 10 fois plus. Je crois qu'il y a des forfaits maintenant. Orange a, par exemple, présenté un forfait de 400 gigas. Ouais. Alors, bien qu'il nous manque des statistiques pour avoir un avis définitif, ça donne quand même l'impression que les Français ont une utilisation raisonnable de leur forfait téléphonique. Et il faut le dire, tout les pousse à avoir une utilisation raisonnable, à commencer par le bon sens. La 5G ou la 4G pollue plus, c'est vrai, mais en matière d'autonomie, surfer en 4G ou en 5G, ça consomme plus que le Wi-Fi. iOS et Android font un très bon boulot aussi à ce niveau-là. Oui, il y a une connexion Wi-Fi que vous connaissez, le téléphone se connecte automatiquement au routeur Wi-Fi. Et si vous avez une bonne connexion Internet à la maison, c'est souvent mieux qu'une connexion cellulaire qui passe parfois mal à l'intérieur. Bref, on n'est pas vraiment loin d'un faux problème avec pour seul objectif de faire culpabiliser les gens.
Et je pense aussi aux applications, les applications comme Spotify, Netflix, de plus en plus ont des fonctionnalités pour télécharger automatiquement des playlists ou des films en Wi-Fi.
Tout à fait, parce que ça coûte de l'argent à tout le monde. Hein. De toute façon, ces gens-là préfèrent que tu aies ta playlist en cache qu'à streamer systématiquement. Hein. Et certains gros consommateurs de forfaits, je pense les étudiants, c'est aussi parce que économiquement parlant, ils n'ont pas le choix. Bref, si l'ADEME voulait être force de proposition, maintenant que les box sont quand même un bon Wi-Fi, on parle beaucoup notamment de l'arrivée du Wi-Fi 7, elle pourrait par exemple pousser à la généralisation de ce que Free faisait à une époque avec le Free Wi-Fi. Hein, donc tu arrives chez quelqu'un et la box te connecte automatiquement sans que tu n'aies rien à faire. C'est une piste, mais il y en aurait beaucoup d'autres.
Eh bien écoute, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. À la semaine prochaine, avec peut-être un nouvel iPhone SE d'ici là, on croise les doigts.
Ouais, donc je crois qu'on va pas encore s'ennuyer la semaine prochaine, et c'est tant mieux. Bah écoute, bon week-end à tous.
Bon week-end à tous, et n'oubliez pas de mettre 5 étoiles si vous appréciez Sortie de Veille. Salut à tous.